j'avais terminé la fois dernière en mettant sur le tableau la manière dont je pouvais exprimer ce que l'humain entend par la santé et l'acquis. Et on doit compléter ça en lisant maintenant le numéro 6 de votre série de citations, si quelqu'un veut bien, quiconque raisonne là.
Quiconque raisonne est son propre centre, et aucun expédient pour arriver à une commune mesure pour tous les esprits ne peut rien contre cette vérité, mais alors on est en droit de se demander s'il existe quelques critères de l'exactitude de l'inférence qui puisse nous garantir la légitimité de la certitude émise en faveur de la proposition inférée, puisque cette garantie ne saurait être, comme je l'ai dit, de caractère scientifique. J'ai déjà dit également que le seul jugement, le jugement final sur la validité d'une inférence en matière concrète, relève de l'action personnelle de la faculté de raisonnement à la perfection et au pouvoir de laquelle je donne le nom de sens ilatif. En employant le mot « sens » parallèlement à l'usage que nous en faisons dans des expressions telles que « bon sens »,« sens commun »,« sens de la beauté », etc. Et j'avoue que je ne vois aucun moyen d'aller plus loin dans la réponse à cette question. Cependant, je puis du moins expliquer ma pensée plus complètement. Aussi parlerai-je tout d'abord de la sanction du sens ilatif, puis de sa nature et enfin de sa portée.
Il y a un fait qui est humain à la difficulté finalement de poser sur le plan subjectif des critères de certitude qui puissent justement soutenir cette affirmation que chacun qui raisonne se prend lui-même pour centre. Et alors, j'ai passé sur ça dans l'exposé que j'ai fait sur le passage de l'inférence à la certitude de la position théologique ou du signe de crédibilité imposé comme certains. J'ai passé quand même sur des choses qu'il dit pour essayer d'étayer finalement ou de distinguer entre un arbitraire sur le plan subjectif et ce qu'il dit là. Et alors, il dit qu'au fond, il y aurait trois choses qui. Mais il faut aussi que je pense, je vous parle aussi des principes objectifs, enfin, qu'on peut rejoindre par la suite. Mais si on se met sur le plan purement subjectif, où il se place là. Il a dit auparavant, dans une longue partie de la gamme de sentiments, sur la certitude, où il essaie de trouver des critères purement subjectifs, mais qui ne viennent pas à bout, finalement, la difficulté. Il a dit, il y a la préjudice. Et alors, à ce moment-là, le préjudice qu'il a... dont il parle dans les sermons universitaires comme étant la bigoterie, comment est-ce que justement on peut distinguer entre la fermeté du croyant et le bigotisme, si vous voulez. Et alors, il dira qu'il y a des choses qui permettent l'effort de la conscience réflexe, si vous voulez, l'effort de la conscience réflexe qui revient sur ce que l'on croit, pour essayer vraiment de voir comment on la possède, cette vérité, parce qu'il aligne dans cette partie sur la certitude toutes sortes d'autres manières de faire des inférences que sont l'opinion, la créance, le doute, etc. Et il dira, mais une inférence informelle, comme elle était dans le sens, comme elle est dans le sens relatif, eh bien, il y a quand même un effort de la conscience réflexe de regarder ça en face et de la considérer raisonnablement que ne fait pas le bigot ou l'enthousiaste, si vous voulez. Et là, effectivement, on peut signaler l'erreur d'un certain charismatisme qui ne fait aucun effort sur le plan de la raison pour collaborer avec la grâce de Dieu, si vous voulez. Newman était très très porté contre cet enthousiasme évangélicaliste, et même il juge les évangélicalistes un petit peu trop durement, je pense. Et puis l'autre chose qui rejoint un petit peu ce que saint Thomas d'Aquin dit, c'est le repos de l'esprit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a adéquation entre le réel et notre faculté de connaître, l'esprit est comme comblé. Et saint Thomas dit ça, hein, il dit que l'adéquation réelle et intellectus est une sorte de repos d'esprit dans la chose. Et donc il donne comme ça, il y a un troisième critère qui m'échappe maintenant de mémoire, mais il essaie de le justifier de cette façon-là. Mais on voit aussi que plus loin, on va voir qu'il y a, je l'ai mis là sur la chose, là, les principes objectifs qui vont rendre possible de sortir de ce qui semble être une espèce d'enfermement dans l'individualisme un protestant un peu impossible à justifier, si vous voulez. Parce que qui raisonne et son propre centre, c'est un peu fort comme affirmation. Et alors, je vais prendre ici, dans la grammaire de l'assentiment, un autre texte où, justement, il montre l'inanité d'utiliser une apologétique purement froide et objective avec la subtilité avec laquelle les personnes passent d'un état de vie à un autre, d'une croyance religieuse à une autre, parce qu'il en va de la configuration personnelle, cette configuration personnelle ayant déjà hiérarchisé des probabilités dans un certain sens, et vous n'arrivez pas à percer, le mur qui est élevé contre une autre façon de voir. Je vais vous lire ça parce qu'on voit, en fait, pudiquement, il décrit son propre itinéraire en disant ceci. Quand donc on nous dit que quelqu'un est passé d'une religion à une autre, la première question que nous avons à poser est la suivante. C'est la grammaire de l'assentiment dans cette édition, les pages 316 et 317. Quand on nous dit que quelqu'un est passé d'une religion à une autre, la première question que nous allons à poser est la suivante. Est-ce que la première et la seconde religion n'ont rien en commun? Si elles ont des points communs dans la doctrine, il n'a changé qu'une partie de son credo, non le tout. Et la question suivante est celle-ci. A-t-il jamais fait grand cas des vérités autres que celles qui, bien que différemment, sont communes à son nouveau credo et à l'ancien? Autrement dit, il est inconscient de lui-même, d'une part, il est en partie inconscient de la raison pour laquelle il évolue dans un certain sens. De quelle vérité est-il certain parmi les anciens, de quelle vérité parmi les nouvelles? Ainsi, et ceci, ça montre à quel point il y a une réponse ici, ou en tout cas une façon de faire face d'une façon réaliste au relativisme de notre contexte actuel. Ainsi, des trois protestants, l'un devient catholique, un second unitarien, ça c'est une négation, une forme de protestantisme très pauvre qui nie la Trinité, bon, c'est seulement le Dieu un. Un unitarien et un troisième, un croyant. Comment cela se fait-il? Le premier devient catholique parce que lorsqu'il était protestant, il donnait son assentiment à la doctrine de la divinité de notre Seigneur avec un assentiment réel, et non pas seulement notionnel, et une conviction authentique, et parce que cette certitude prenant possession de son esprit, l'âme a accueilli la doctrine catholique de la présence réelle et la théodocos jusqu'au jour où son protestantisme l'a abandonné et qu'il s'est soumis à l'Église. On voit que c'est un tableau très rapide et pudique de son propre évolution, sa propre évolution. Maintenant, il passe plus de temps pour les autres. Le second est devenu unitarien parce qu'avançant sur le principe que l'Écriture est la règle de la foi, et la seule règle de foi, et que le jugement privé de chacun étant sa règle d'interprétation, et trouvant que la doctrine des credos de Nicée et d'Athanase ne découlait pas par nécessité logique du texte de l'Écriture, il s'est dit à lui-même, la parole de Dieu a été réduite à rien par la tradition des hommes. Ça, c'est un plan de notre Seigneur qui est utilisé dans le contexte qu'il y a des formes. La parole de Dieu a été réduite à rien par les traditions des hommes. Et par conséquent, il ne lui restait plus qu'à professer ce qu'il considérait comme le christianisme primitif et à devenir humanitariste. Le troisième est passé graduellement à l'incroyance, parce qu'il est parti du dogme protestant, chéri dans les profondeurs de sa nature, donc il n'en est pas, c'est implicite, ça fait partie dans ses sens relatifs, si vous voulez, chéri dans les profondeurs de sa nature, que le sacerdoce est une corruption dans la simplicité de l'évangile. Le nombre de fois que, lorsque j'étais en Angleterre, j'ai rencontré des protestants qui me disaient, mon père, j'aimerais bien parler, surtout des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mariage entre un catholique et un protestant. Les protestants disant, mon père, j'aimerais bien embrasser la foi de ma future femme ou de mon futur mari, mais me confesser à un prêtre, ça c'est impossible. Je dois régler mes problèmes de mes péchés avec Dieu seul. Alors, je faisais ce que je pouvais. Hein. Je sortais la parole de Jésus aux pharisiens à propos de l'homme, d'une paralytique en disant qu'est-ce qu'il est plus facile de dire, etc. Enfin, bon. Donc, le troisième est passé graduellement à l'incroyance parce qu'il est parti du dogme protestant, chéri dans les profondeurs de sa nature, que le sacerdoce est une corruption de la simplicité de l'évangile. Ma grand-mère, qui était un méthodiste pratiquant et fervent, il y avait dans la petite ville industrielle où ma mère était élevée, il y avait une communauté catholique assez vivante. Et par conséquent, on voyait souvent le prêtre avec son col romain et tout, le pasteur méthodiste et autres part, qui se promenait en ville. Et ma grand-mère disait à ma mère, si vous voyez un prêtre catholique venant vers vous sur le trottoir, vous prendrez le trottoir en face pour l'éviter. Voilà. Ça, c'est une espèce de répugnance viscérale pour le sacerdoce dans les profondeurs de la protestante. Je sais qu'il y a des pasteurs protestants, mais ils ne sont pas des prêtres. Hein. Et lorsque je regarde tout ce baratin du groupe des dômes pour essayer de dire que les pasteurs sont finalement comme des prêtres et qu'on peut être d'accord sur les... Mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit entre un prêtre et un pasteur protestant. Radio Fauvier ne pense pas ça, mais c'est pas bon. Donc, il aura protesté d'abord contre le sacrifice de la messe, évidemment. Ensuite, il a abandonné la régénération baptismale et le principe sacramentel. Puis, il s'est demandé si les dogmes n'étaient pas une restriction de la liberté chrétienne aussi bien que les sacrements. Ensuite, vient la question, après tout, qu'a-t-on besoin de professeurs de religion, comme les professeurs de France? Bon, pourquoi, comme les professeurs de faculté de pasteurs qui étaient professeurs et non pas de vrais pasteurs, excusez-moi. Pourquoi quelqu'un s'interposerait-il entre lui et son créateur? Après un temps, il lui vint à l'esprit qu'à cette question évidente, les apôtres avaient à répondre, aussi bien que le clergé anglican. Ainsi, il arriva à la conclusion que la vraie et unique révélation de Dieu à l'homme est celle qui est gravée dans son cœur. Cela alla pour un temps et demeura théiste. Ensuite, il lui vint à l'esprit que cette loi morale intérieure était là, au-dedans de sa poitrine, qu'il y a un Dieu ou non, et que c'est une manière détournée d'imposer cette loi de dire qu'elle vient de Dieu et que ce n'est pas du tout nécessaire, considérant qu'elle a porté avec elle son autorité sacrée souveraine, comme nos sentiments en témoignent instinctivement, et quand il se mit à observer le monde physique autour de lui, il ne vit réellement pas quelle preuve scientifique il y a là de l'être de Dieu. Il lui semble que tout irait tout aussi bien qu'à présent, sans cette hypothèse, comme avec elle. Ainsi, il l'abandonna et devint un athée pour tous. Voilà. C'est une phénoménologie extraordinaire, ça. C'est ce que nous voyons. Une fois, j'étais dans un café à Paris. serait le, pas loin de la gare Saint-Lazare. Et alors, parce que j'avais pris un train, et c'est un ces cafés où c'est petit, mais où il y a un personnel très efficace qui fait un roulement de la clientèle de telle façon qu'il faut manger beaucoup de monde en peu de place. Les Français sont passés maîtres ce genre de choses. Et alors moi, j'étais à une petite table sur une banquette, mais avec pas de chaise de l'autre côté, parce que pour que les serveurs puissent passer tout le long de la banquette et mettre l'eau et le vin, etc., facilement. Et j'avais une dame à côté de moi, qui était sa table était à quelques centimètres, et alors elle m'a observé pendant le repas que je prenais. Et à la fin du repas, elle m'a abordé. C'est une bourgeoise parisienne de Venton. Et alors, elle m'a dit, « Oh, les prêtres, l'Église, ainsi de suite. Je n'en peux plus, j'ai souffert de tout ça. » Et alors, mais Jésus-Christ, bon, ben, je peux aller à Jésus-Christ sans l'Église et sans les prêtres. Bon. Mais je suis un petit peu ennuyé par le fait que je ne communie jamais. Mais enfin, j'ai ma vie spirituelle et je prie tout ça. Et puis voilà, et je n'ai pas à souffrir à nouveau de ces prêtres. Je me suis dit, si je me suis laissé entortiller dans cette affaire-là, je n'en sortirai jamais, parce que son élective sense est profondément blessé, par conséquent, il vaut mieux. Alors, j'ai détourné la conversation et j'ai dit, « Madame, est-ce que vous connaissez Charles de Foucault ?» Elle dit, « Oui, parce qu'elle avait une information catholique comme ça. » Bon. Alors j'ai dit, « Charles de Foucault, lorsqu'il a quitté le Maroc, et il a d'abord été dans les églises de Paris pour redécouvrir Dieu, si tu existes, Seigneur, montre-toi. » Et le Seigneur a répondu finalement en lui donnant la conviction qu'il devait même donner sa vie tout entière à ce Dieu transcendant qu'il avait vu prier au Maroc, bon, par les musulmans. Et alors, il a dit, il faut que je me recycle dans la connaissance de la foi catholique, parce que c'est pas suffisant. Alors, l'Église Saint-Augustin, avec l'abbé Huvelin, qui était un des vicaires, qui avait une certaine envergure intellectuelle, faisait des cycles de conférences, etc. J'irai chez l'abbé Huvelin et lui demanderai quel cycle de conférences il faut suivre pour justement recycler dans la connaissance de la foi catholique. Et lorsqu'il est arrivé devant l'abbé Huvelin, l'abbé Huvelin ne lui est même pas laissé le temps de dire son projet. Il a dit, à genoux, confessez-vous. Et j'ai enchaîné. Et vous, madame, vous allez faire ça maintenant. Et alors, elle l'a fait. Voyez, elle a simplement dit, mon père, dans un café comme ça, ah, j'ai dit, pas de souci. Les gestes extérieurs, c'est moi qui vais les faire. Vous ferez des mouvements du cœur intérieur et vous direz vos péchés tout bas et personne n'en entendra. Et moi, je m'en fiche éperdument si un serveur me voit faire un signe de croix pour l'absolution. Bon. Elle a dit ça tout comme un enfant. Elle est partie rayonnante. Et alors moi, j'avais une parole intérieure quand même. J'avais la parole, cette femme ne sortira pas de cette café avant de s'être confessée. Et moi, je me suis dit, oh non, cette pensée-là, cette lavande-là, c'est parce que deux ou trois fois, tu as eu une aventure un petit peu semblable, par conséquent, tu veux te donner. Bon. Et alors, je voulais écarter ça, mais j'ai osé quand même dire, maintenant tu feras ça, vous ferez ça maintenant. Comme quoi, au lieu de me laisser entortiller dans tout son élite, et ça complètement tordu, si vous voulez. Parce que si vous luttez contre un élective sense qui est tout entier tordu, vous ne pouvez pas. J'aurais pu l'exposer d'une manière formidable, la relation théologiquement exacte, la relation entre Jésus et son Église, l'inséparabilité des dieux, etc. Ça n'aurait pas touché la surface de son Église. Alors, il fallait pénétrer de temps. Donc, c'est possible, hein, malgré la laïcisme et la liberté républicaine de ce matin. Je rêve à ce point maintenant, la dialectique de la conscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire justement pour ajouter ce sens élatif, à quelle profondeur ça se situe, si vous voulez. Pour toute personne qui soit, quel qu'il soit, le sens élatif ne nous rend prisonniers d'une manière, ne nous rend pas prisonniers d'une manière purement arbitraire de juger en matière religieuse. Pourquoi ? Dans la section sur la religion naturelle qui va suivre cette analyse qu'il fait ici de l'inférence informelle, Newman montre que l'homme qui obéit à sa conscience est pénétré jusqu'au plus profond de lui-même de valeurs à la fois morales et religieuses. C'est le tissu psychologique de sa personnalité dans ce qu'il a d'incommunicable à autrui qui justement bénéficie de cette imprégnation. Par conséquent, l'homme religieux et consciencieux sera orienté dans l'exercice de son sens élatif par les principes directeurs qui sont devenus tellement partie intégrante de sa personnalité psychospirituelle qu'il n'aura pas une conscience claire de leur influence sur lui. Et au fond, Newman, c'était ça. Newman, c'était ça. Et le deuxième exemple, le protestant qui devient unitarien, lui, il a enfoui en lui la conception que l'écriture seule est ce qu'il faut avoir comme un moyen de connaître la vérité religieuse, et ça le bloque finalement dans un, la troisième personne qui a une espèce de répugnance viscérale pour le sacerdoce, tel que Luther l'avait d'ailleurs, et par conséquent, il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir de ce carcan-là. Mais quelqu'un dont la conscience est ouverture à la transcendance d'une manière juste, comme Newman a été à partir de 15 ans, celui-là, il s'orientera vers l'Église. C'est justement ce qui constituera le caractère spontané de l'exercice de son sens élatif, ce qui est de l'ordre des principes et des façons de penser qui sont devenues habitudes et ancrées en lui, si vous voulez. Mais en même temps, c'est justement ce qui le met en accord avec d'autres personnes qui ont le même souci de l'obéissance à la conscience. Et s'agissant des signes que donne Dieu placé dans l'histoire pour que l'homme reconnaisse la révélation et son appel à entrer en dialogue avec lui, eh bien, plus intime avec lui que sur le plan purement de la religion naturelle, la religion de la conscience, si vous voulez, eh bien, cette rectitude morale religieuse de la conscience conduira à cette conglobation des signes qui aboutira à sentiment réel ou ferme au contenu du donné révélé, enfin, dans le meilleur des cas, J'avoue qu'il y a des personnes qui, dans leur misère ou dans leur difficulté de vie, témoignent de la puissance de cette rectitude. À côté de là où je suis, au séminaire d'Ars, il y a un petit café, d'ailleurs c'est public, donc je peux en parler, il y a un petit café d'un foyer au composé. Et la petite femme qui s'appelle Corinne et son mari Christophe, était marié à l'église avec une autre femme par qui il a eu deux filles. Et puis elle était mariée civilement. Et une fois, lorsque j'ai parlé avec elle, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer, parce que j'ai vu son désir que ses deux filles, son fils et sa fille à elle, et les autres filles aussi, et une éducation religieuse, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépasser cette difficulté? Elle a dit, mais mon mari a été marié à l'église, il était enfant de cœur, il était complètement plongé là-dedans, alors que moi j'étais marié civilement. Et puis elle a ajouté pas à ce moment-là. Et un jour, il est entré dans le café, qui est assise à une autre table, une bonne sœur qui est un peu stridente. Bon. Elle a parlé de ce problème du mariage, des divorcés, etc., dans des termes qui me dérangeaient Et je savais que Corinne, qui était à la cuisine, entendait ce qu'elle disait. Et moi, j'ai élevé la voix en disant, excusez-moi, ma sœur, mais il y a le fait objectif que le sacrement de mariage est une participation, une relation sponsale entre Jésus et son épouse Église, et que ça reste là pour l'éternité, et on ne peut pas bouger ça. Bon. Et Corinne, après, lorsque je suis partie, m'a dit, mon père, j'accepte ce que dit l'Église catholique et je vis avec ça. La rectitude de la conscience pour la religieuse. La rectitude de la conscience. J'accepte ça. Et alors je me suis dit, en priant pour elle et en pensant qu'elle fait tout ce qu'elle veut, le Seigneur regardera ça avec miséricorde. C'est évident. Et je n'ai pas dit, vous pouvez communier parce que ça, non, parce que l'Église dit non. Et d'ailleurs, pour la raison que je viens de dire, que l'Eucharistie renforce la relation qu'on a entre la relation entre Jésus et son épouse. Et on ne peut pas engager quelqu'un là-dedans. Voilà. Mais j'ai bien vu que la rectitude de sa conscience lui permettait de se préoccuper de l'éducation religieuse de ses enfants, etc., malgré la difficulté où elle se trouvait. Mais c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Alors que quelqu'un, d'autres personnes pouvaient laisser s'obscurcir leur conscience et finir par n'avoir que des opinions religieuses, comme dit Newman. Je passe maintenant à ces principes objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont sur le plan. La providence, la nature des choses et l'analogie. Cette référence aux valeurs morales ou religieuses qui pénètre l'intime de la conscience d'un homme qui leur est bien disposé montre qu'à côté des facteurs subjectifs sur lesquels la pensée de Newman met tout l'accent, il y a pour lui des facteurs ou principes objectifs qui jouent dans le cheminement de la non-foi à la foi. Et c'est dans la partie de la grammaire de l'assentiment où il parle où il fait l'application, si vous voulez, de tout ce qu'il a dit sur le cumul des probabilités au niveau du problème de l'influence informelle, et qui est l'élective scène, si vous voulez. Et alors, il dit au fond que lorsque la religion naturelle est intégrée, qu'une personne est droite moralement avec un sens de Dieu, tous les principes finalement fondamentaux de la morale naturelle jouissent comme des probabilités par rapport à l'acceptation du révélé, si vous voulez. Il y a comme une sorte d'harmonie entre une conscience droite et l'acceptation de Dieu lorsqu'il se fait connaître au niveau du révélé. Voyez. Et alors, ces principes qu'il énonce sont trois. Je vous les ai mis là, la providence, la nature des choses et l'analogie. La providence. Au fond, c'est le résumé sous un aspect relationnel de toutes ces vérités de la religion naturelle qui sont à la portée d'une conscience morale religieuse droite et éclairée. Si vous souvenez de la façon dont nous avons lu les deux textes sur la conscience, on a vu un qui est porté sur la nature de la conscience elle-même, avec sa double dimension, contenu moral ou sens moral, le principe ou l'espèce morale qui est visée, si vous voulez, et puis ensuite l'injonction qui est « ce qui s'insère en moi sans être de moi ». Tu fais ceci, tu fais cela, en un voyant, en une transcendance. Et ensuite, l'autre analyse phénoménologique portée sur le fait que une fois la conscience devenue obéissante par rapport à cette injonction, découvre que c'est une personne, que cette personne a de l'amour pour lui, que le relationnel est possible, que dans le relationnel on découvre des attributs, etc. C'est comme ça que l'humain procède. Même l'enfant peut être comme cela. Et alors, tous ces aspects relationnels entre Dieu et nous se résument, si vous voulez, sous l'idée de la providence. Et c'était résumé tel que Newman en parle, c'est un résumé, si vous voulez, de ce que Dieu Newman pense que la religion naturelle nous donne sur la relation de Dieu avec nous, et justement parce que la conscience découvre qu'elle est faculté de dialogue avec Dieu, et donc Dieu est en relation avec l'homme et le monde et s'occupe activement du bien ultime de l'homme. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres qui justifie cette affirmation de Newman, où je ne sais pas si je saurais trouver le chapitre, mais c'est un passage où Paul et Barnabé ayant fait des choses un peu spectaculaires dans l'ordre du miracle, les habitants de la ville, les fait, je ne sais pas, ou Colosse, ou je ne sais pas quoi, veulent en faire des dieux. Et alors, Paul dit non, il faut regarder vers la transcendance qui n'est pas nous. Et alors, il donne comme analogie de cette transcendance tous les bienfaits de la nature qui sont prodigues pour l'homme dans la possibilité de se nourrir, d'avoir tous les biens de consommation dont il a besoin. Il a dit, cette analogie montre que vous êtes on est en dialogue, non pas avec un Dieu simplement inconnu et absent, mais il y a dialogue avec un Dieu qui est bon, si vous voulez, qui a des attributs, finalement, et qui les montre par rapport à nous. Et c'est parce que l'homme, la raison humaine est historiquement et psychologiquement située, que le raisonnement rigoureux de type physico-mathématique occupe si peu de place en matière d'histoire, de morale et de religion. Ça, c'est la position de Newman, hein, que un esprit physico-mathématique a du mal à comprendre la nature du fonctionnement de la raison, ou plutôt la contemplation de la raison, ou de l'intelligence plutôt, en matière de ce qui dépasse le fonctionnel et qui est de l'ordre du sens. Ratzinger, qui a certainement subi l'influence de Newman dans ce sens-là, a dit effectivement que un des obstacles à la réévangélisation, c'est la réduction de l'activité d'intelligence humaine à n'être que du fonctionnement, du fonctionnel, à étouffer la dimension contemplative de l'intelligence humaine qui, pour saint Thomas d'Aquin, est première, et à en rester au niveau d'être un prolongement des ordinateurs, si vous voulez. En ces matières, le genre même des thèmes abordés, la nature des choses, je suis passé, c'est pas moi, au deuxième point qui est la nature des choses. Je relis enfin à partir du début. C'est-à-dire non pas la nature ou de l'homme ou des objets de la nature, abstraitement définis, mais la situation concrète de l'homme, avec les limites imposées inéluctablement par cette situation de son esprit dans ce qui est historiquement et psychologiquement en évolution. Alors, dans une situation où il y a des situations historiques et sociales qui sont en évolution, le raisonnement est situé de façon à ce qu'il faut qu'il y ait dépassement vers la transcendance pour pouvoir justement se situer en matière d'histoire, de morale et de religion. En matière de la morale et de la religion. Et en ces matières, le genre même des thèmes abordés, la nature des choses, si on interdit la démonstration rigoureuse, exige celle d'un cumul de probabilités et de vraisemblances, et ce par quoi l'homme doit procéder. C'est ça que Newman appelle la nature des choses. Nous devons, avec notre pauvre petite intelligence historiquement située, procéder par des probabilités convergentes et un cumul de probabilités. Le rationaliste qui parle de la raison absolue est un poisson qui essaie de sortir de l'eau. Ou un poisson qui essaie de sortir de l'eau meurt. Voilà. Il faut rester situé. Et ça, l'homme actuel, au fond, ça rejoint finalement l'affirmation de la constitution des Filius qui dit « Tant que l'homme n'a pas accepté son état de créature, il ne peut pas et sa soumission à celui qui l'a créé, il est inapte, si vous voulez, à poser l'acte de foi. Il est inapte. Il faut qu'il se situe comme une créature, comme un poisson est situé dans l'eau, si vous voulez, qu'il n'a pas créé. Et ça, c'est Newman est convaincu de cela. Donc, humilité de la raison chez Newman, qui rejoint les perspectives de la constitution d'Aefilius, qui affirme contre le rationalisme que nous devons accepter dans l'exercice de notre raison notre statut de créature, qui nous met en dépendance totale par rapport aux voies choisies par Dieu pour se faire connaître de nous. Voilà. Ensuite, alors, vous avez l'analogie. Et là, ce n'est pas du tout l'analogie métaphysique dont parlera la philosophie thomiste, c'est l'analogie au sens large. Là, je mets cette fois-ci son... Newman a pris cette conception à Butler, dont je vous ai parlé plusieurs fois, je mettrai cette fois-ci son nom sur le tableau. C'est un évêque anglican qui a fustigé John Wesley en disant que c'était un enthousiaste et qu'il fallait qu'il se dégage, quoi. Bon. Alors, son ouvrage qui est un abrégé, 1721, 1726. Et ce dont il s'agit, c'est d'une sorte de parallélisme quasi-sacramentel entre la manière dont Dieu fonctionne dans le gouvernement de la création et la manière dont il va agir dans l'économie du salut. D'ailleurs, nous avons des hymnes de l'office qui sont empruntés à la manière de parler des pères. Saint Ambroise, par exemple, qui dans une lecture que nous avons eue il n'y a pas longtemps, dit par la nature, le jour qui finit par, qui se termine par la nuit et qui se lève le lendemain, etc. Ça, c'est un signe de notre résurrection ou de notre mort qui doit être précédé de notre résurrection. Et Jésus est constamment à l'œuvre dans ce genre de parallélisme-là. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il donne du fruit. Et mon mystère pascal est analogiquement comparable à la manière dont Dieu gouverne la nature. Et c'est dans ce sens-là. L'analogie de chez Butler, c'est ça. Quel aspect de cette doctrine de Butler a-t-il intégré dans ses propres conceptions de l'apologétique? Eh bien, pour Newman, il s'agit d'un aspect qui rejoint sa conception de la providence. Les principes fondamentaux du plan divin se découvrent à une conscience en éveil dans son expérience du monde extérieur. Si donc un événement ou une donnée révélée quelconque se présente comme d'ordre surnaturel et en même temps s'harmonise avec les lois de la providence divine déjà découvertes, cette harmonie ou analogie crée une vraisemblance en faveur de son caractère authentiquement surnaturel. Et alors l'exemple que Newman prend, qui à la fois pouvait agacer, mais pouvait aussi être parlant pour des protestants, c'est l'analogie entre la conscience morale religieuse individuelle et l'infaillibilité de l'Église, ou l'infaillibilité même du pape. Et il raisonne comme ceci, il dit, si dans le gouvernement de notre être, nous avons besoin d'un gouvernail qui est notre conscience, qui nous aide à nous faire, nous orienter, à nous construire et non pas à nous détruire nous-mêmes et à développer toutes les possibilités de notre personnalité et à aller vers la vérité qui nous libère, et bien semblablement, il faut que dans l'histoire de l'Église, il y ait un charisme quelque part d'infaillibilité, une instance infaillible qui dirige le cours de l'histoire de la doctrine de façon à ce que ça s'épanouisse harmonieusement. Et il donne cette analogie à ses confrères protestants dans son essai sur le développement de la doctrine chrétienne. L'expérience de la conscience comme principe d'autorégulation avec l'autorité absolue pour diriger notre agir dans un sens qui est cohérent et construire ainsi l'unité de notre agir, de notre être, eh bien, cela a été voulu par la providence divine. Et si d'autre part, il y a une Église qui prétend qu'il y a en elle un principe d'autorégulation qui permet de maintenir la continuité entre la cohérence du donné révélé et la continuité et la cohérence du donné révélé à travers toutes les fluctuations et variations de l'histoire, l'analogie entre le rôle joué par un tel magistère au plan de l'Église universelle et celui joué par la conscience au plan individuel argue en faveur de la vraisemblance, l'existence de ce magistère. Elle argue aussi en faveur de la vérité divine de l'Église qui ose se tenir en possession d'un tel privilège. Et Newman a une façon de raisonner dans l'histoire du développement, dans le laisser sur le développement du dogme en disant il n'y a qu'une Église qui revendique l'infaillibilité. Ça casse tout le monde. Mais si elle le revendique et qu'elle est la seule à le revendiquer, comment ça se fait qu'elle ne l'aurait pas si aucune autre Église n'ose la revendiquer? Une fois, c'était une des expériences que j'ai eues qui m'a donné la certitude que chaque fois que les catholiques, qui sont en dialogue avec les protestants de confession quelle qu'elle soit, et qui essaient de cacher, d'édulcorer ou même de brader ce qui leur est plus difficile à admettre par les protestants dans la foi catholique, se trompent dans la direction œcuménique à prendre. Et ce qui m'a convaincu de ça, c'est ceci, c'est que il y a un Suisse, il est peut-être mort maintenant, il y a un Suisse protestant qui s'appelle le nom m'échappe même. En tout cas, c'était quelqu'un qui était dans la période de sa créativité théologique et œcuménique sur le plan théologique du Conseil des Églises en Suisse réformé, qui était très droit dans sa conscience et qui, d'ailleurs, sa fille est passée au catholicisme. Il est venu faire une série de conférences comme retraité à Bossé dans une de mes dernières années là, avec le Conseil des Églises. Et alors, il s'intéressait donc à 55 protestants, une dizaine orthodoxes, et puis moi. Bon. Et alors, à un moment donné, il y a Lucas Fischer, voilà le nom, Lucas Fischer. Il y a un latino-américain, vous savez, il y a beaucoup de latino-américains ici, hein, mais il y a beaucoup de latino-américains protestants qui ne sont pas très bien dans leur peau. Parce que la culture de l'Amérique latine est catholique et existait dans une chose qui reçoit des sous des États-Unis peut-être pour en douter l'affaire, mais dans une sorte de contre-courant, ce n'est pas si facile que ça. Et alors, il y a une sorte d'agressivité prosélytisante qui peut justement être là. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a du bon aussi. Mais en tout cas, il y avait un petit Brésilien qui voulait m'enquiquiner. Bon. Et alors, la manière dont il voulait m'enquiquiner, c'était de poser une question perverse à celui qui donnait la conférence. Et il a dit, Monsieur Lucas Fischer, l'Église catholique est toujours en train de parler de son unité, etc., autour de Pierre. Mais lorsque je vois l'épiscopat du Brésil, je vois qu'il y a deux tendances qui sont dans une tension quelquefois assez douloureuse l'une avec l'autre. Bon, c'était à l'époque de la libération marxiste qui poussait à gogo sur l'autre. Alors, Lucas Fischer a dit à cet étudiant, vous êtes presbytérien, n'est-ce pas? Oui, il a dit oui. Mais il a dit, attendez, même si vous êtes peu nombreux comme presbytériens, il y a quand même plusieurs dénomination presbytérienne. Laquelle est-ce que vous, à laquelle est-ce que vous adhérez? Est-ce que vous êtes membre? Il a dit telle chose. Vous, vous acceptez qu'il y ait plusieurs dénominations presbytériennes pour un petit nombre de presbytères protestants au Brésil. Alors que l'Église catholique tient cet immense ensemble de 120 millions de catholiques dans un filet de poissons qui frétille, mais elle arrive à les tenir. C'est l'unité, ça. Et puis, il a ajouté ce que je voulais vous dire. Si, dans l'Église catholique, il n'y avait pas la revendication de posséder l'unité que Jésus voulait au niveau de tous les moyens du salut, non pas au niveau de notre propre péché possible, etc., mais au niveau de tous les moyens de salut nécessaires à cette unité, si il n'y avait pas une Église qui revendiquait ça, le mouvement œcuménique s'arrêterait immédiatement. Parce qu'il n'y aurait aucun signe dans ce monde que le Christ veut l'unité visible de tous ses disciples. C'est l'Église catholique qui donne ce signe à agir continue et de façon permanente. Écoutez, un protestant suisse qui ne dit pas ça. Un protestant suisse qui ne dit pas ça. Donc moi je me suis dit, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire l'écuménisme. La façon dont j'entends pas, je ne vais pas faire du négatif encore, il faut faire le assez. Hein. Est-ce qu'on peut prendre... où est-ce que j'en suis avec ça? Autrement dit, la cohérence de la providence et on estime par l'expérience intime de la conscience personnelle de cette providence la vraisemblance ou probabilité historique que si Dieu communique sa révélation à des hommes, il le fera de manière à assurer la cohérence et la continuité à travers l'histoire. Et c'est pour ça que l'essai sur le devoir du dogme a été le livre, la rédaction, et c'est au cours de cette rédaction que Newman est passé au catholicisme. Il a dit, je ne peux plus résister à cette cohérence-là dans une conscience qui essaie d'être fidèle à ce que Dieu m'avait proposé comme moyen d'obéir, si vous voulez, aux médiations de mon obéissance à lui. Je ne peux plus passer par ces médiations. Je dois maintenant rejoindre le catholicisme. Est-ce qu'on peut lire à ce niveau-là le numéro 7 de notre chose-là?
De plus, on ne doit pas perdre de vue que si toute religion est par essence autorité et obéissance, la religion naturelle et la religion révélée se distinguent en ceci, que l'autorité de l'une est subjective et celle de l'autre objective.
Aujourd'hui, vous avez d'entendre que toute religion est par essence autorité et obéissance. Hein? On le fait. C'est prêt. Bon, on continue.
La révélation consiste dans la manifestation de la puissance divine invisible, dans la substitution de la voix d'un législateur à la voix de la conscience, la suprématie de la conscience et l'essence de la religion naturelle, la suprématie d'un apôtre, d'un pape, d'une église, d'un évêque et l'essence de la religion révélée. Et quand cette autorité externe vient à manquer, l'esprit se rabat nécessairement sur ce guide intérieur qu'il possédait déjà avant que la révélation fût accordée. Ainsi, le rôle que la conscience joue dans le système de la nature est celui-là même que la parole de l'Écriture ou de l'Église ou du Saint-Siège, cela reste à déterminer.
Mais puis, il détermine bien vite après, hein. Bon, oui.
Joue dans le système de la révélation. On peut objecter, il est vrai, que la conscience n'est pas infaillible. C'est vrai. Mais on n'en doit pas moins lui obéir. Et c'est là justement le privilège que les controversistes assignent au siège de Pierre.
Ça, c'est génial, ça. Parce que vous dites que si il faut obéir à une conscience invincible, même lorsqu'elle est erronée, eh bien, même si Pierre dit des choses qui ne sont pas toujours absolument à taper dans le mille, on le reçoit avec filialité. Et docilité si ça concerne la foi et les mœurs, parce qu'après ça va se situer un petit peu la foi. Et moi j'ai dit souvent au séminariste Ars, écoutez, lorsque Monseigneur Bagnard vient dans ce séminaire pour une institution et qu'il nous fait une homilie, une instruction, nous devons faire attention à ça d'une manière toute particulière, mais même à la milieu d'une prêche, mais comme une parole du Christ à nous adresser, qui est absolument obligatoire pour nous. Et alors, il y a un séminariste qui pose la question, oui, mais si on est Monseigneur Gaillon et qu'on dit des bêtises, bon, et qu'on est infantile et adolescent par-dessus le marché. J'ai répondu, Jean-Paul II a dit à Monseigneur Gaillot, je vous relève de l'épiscopat, de votre charge d'évêque d'Évreux, non pas parce que vous avez dit des bêtises, et Dieu sait si vous en avez dit, mais ça il n'a pas compris, mais parce que vous n'avez pas parlé en communion avec l'épiscopat uni à moi. Et il est très facile, très facile peut-être pas toujours, mais il est relativement facile pour un séminariste qui est déjà bien informé sur le plan philosophique ou théologique de voir la convergence et la communion entre ce que dit Mgr Bagnard et ce que dit Benoît XVI. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune excuse. Voilà. Bon, on continue, oui. Il n'est pas infaillible.
Il n'est pas infaillible dans tous les cas. Il peut errer en dehors de son domaine propre, mais il a dans tous les cas le droit de réclamer notre obéissance.
Voilà, la filialité, on doit avoir un parti pris, un préjugé favorable pour les documents du magistère, même s'il ne se déclare pas, même s'il n'y a pas une déclaration formelle infaillible de telle ou telle chose. Une fois, oh ben oui. J'ai du temps, alors ça va. Une fois, j'étais serré contre le mur d'un appartement, d'un salon d'un appartement à Paris, en essayant de m'accrocher à mon petit verre de Porto, parce qu'on devait fêter la production d'une revue que vous devez recevoir ici, Vie sacerdotale, qu'est-ce que c'est? Prêtre diocésain, voilà. Prêtre diocésain. Il vient sur moi, Hervé Legrand. Et il s'est passé ceci, c'est que une femme qui était à la tête d'une faculté en Sicile m'avait écrit en disant: nous avons parlé de la question de l'ordination des femmes et nous avons demandé à chacune des quatre traditions chrétiennes majeures, catholicisme, orthodoxie, anglicanisme et protestantisme, de fournir quelqu'un qui était pour l'ordination des femmes et quelqu'un qui était contre. Nous avons trouvé quelqu'un dans le catholicisme qui était pour, ça c'était Hervé le Grand, Dieu l'aide son âme, et puis nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui était contre. Alors, elle m'a écrit en disant, vous n'avez pas participé au colloque, mais je voudrais que vous écriviez quelque chose là-dessus, et en se chargeant de traduire l'italien. Alors, Hervé Legrand a vu que j'avais l'avantage que je savais ce que lui il avait écrit. Et moi, j'ai pris la contrepartie de ce qu'il avait écrit. Alors, je suis en train de serrer mon petit verre de Porto lorsque la guerre est arrivée. Et alors, mais voyez-vous, Jean-Paul II n'a pas défini ex cathedra que la femme ne peut pas accéder au sacerdoce. Et alors, critériologiquement, ça veut dire que, sans doute, il est ouvert à la possibilité que des situations historico-sociales différentes de la nôtre, ou la nôtre déjà en état d'évolution, va obliger l'Église à changer son registre de formulation, enfin sa manière de parler, lorsque le moment approprié sera venu. Parce que, par exemple, l'Église a changé à propos de l'usure. En fait, elle n'a pas changé, elle a simplement adopté quelque chose qui était toujours vrai à propos d'être honnête avec l'argent, à la situation du capital qui était un moyen de produire du fric, quoi, c'est ça. Et alors, j'ai dit, mais le problème n'est pas le même que l'usure, le problème de l'usure, le prêt à intérêt, enfin. parce que la différenciation entre l'homme et la femme est d'ordre métaphysique. Et c'est par conséquent, ça dépasse toutes les situations historico-culturelles possibles. Et c'est là-dessus que se base l'ordination sacerdotale, qui dit que la tradition catholique perçoit dans le dépôt de la foi qu'on ne peut pas ordonner les femmes. Et alors, il m'a dit, ah, si vous pensez comme ça, on ne peut plus discuter. Il est parti. Mon elective sense, il ne pouvait pas l'entamer. Et je n'ai pas entamé le sien. Tant pis. Bon. Je continue. Bon. On a lu le 7, oui. Peut-être qu'on va faire la pause et puis je parlerai de la...